France Culture. La science CQFD, Natacha Trioux.
Elle fait partie de nos vies à chaque instant, jusqu'au dernier souffle. La respiration, quels en sont les mécanismes? Et peut-on vraiment soigner par la respiration? On dit que l'on respire avec le cerveau, car la respiration est la seule fonction vitale que l'on peut contrôler volontairement. La bloquer en apnée, ou même l'accélérer pour hyperventiler. Impossible de faire de même avec le battement du cœur. Le lien entre respiration et cerveau se retrouve même dans l'étymologie. Le mot latin spiritus, qui signifie souffle, a donné esprit en français. Outre ses dimensions symboliques, elle est surtout une question de santé publique. 10% des Français sont touchés par des pathologies respiratoires et des techniques ventilatoires sont en développement pour aider les patients. Respiration, la science à plein poumon. Sophie Lavaux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne dans le service de médecine de réadaptation respiratoire de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et docteur en neurosciences. Thomas Similowski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de pneumologie à Sorbonne Université et à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et directeur de l'unité de recherche neurophysiologie respiratoire expérimentale et clinique. Et cette émission est co-animée avec vous, Olivier Lascar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du pôle numérique de Science et Avenir, notre magazine partenaire. Merci à vous tous d'être ici avec nous en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous publions pour vous toutes nos sources. C'est sur notre compte @sciencesqfd. Alors comment la respiration agit-elle sur la santé et sur la santé mentale? Quels en sont les principaux troubles et comment diminuer la souffrance respiratoire des patients atteints de ces troubles? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, comment fonctionne-t-elle? La question est posée en 1949.
La respiration est une fonction essentielle de la vie. Elle ne saurait être interrompue chez l'homme plus de 5 minutes sans que la mort s'ensuive. Cet air indispensable, il importe qu'il soit pur et en quantité suffisante. En 24 heures, 10 800 litres d'air passent dans une poitrine humaine. Ainsi, à l'air libre, quelques 10 mètres cubes d'air nous sont nécessaires en une journée. Que l'oxygène manque ou qu'il y ait excès de gaz carbonique, dont nous rejetons quotidiennement 450 litres, et c'est l'asphyxie. Aussi méfions-nous de l'air confiné, c'est-à-dire de l'air non renouvelé en espace clos. Prenons garde à l'air vicié et laissons faire au vent coulis, qui par les joints des portes et des fenêtres assure subrepticement une utile ventilation. C'est le manque d'oxygène, lequel se raréfie au fur et à mesure qu'on s'élève dans l'atmosphère, qui provoque à partir de 3000 mètres d'altitude le trop célèbre mal des montagnes, analogue au mal des aviateurs, éprouvé toutefois celui-ci à des altitudes supérieures à cause de l'absence de fatigue physique. Bien des gaz vénéneux peuvent, répandus dans l'air, provoquer des accidents graves, voire mortels. L'ennemi numéro un est sans doute l'oxyde de carbone, le terrible oxyde de carbone, qui, à la dose de 1 pour 800, détruit en 30 minutes la moitié des globules rouges du sang.
Voilà un extrait de l'émission Science et Poésie, diffusée en 1949 sur la RDF. Thomas Similowski, que vous inspire cette archive sans mauvais jeu de mots?
Moi, déjà que le titre de l'émission de l'époque était bien choisi, je trouve le texte extrêmement poétique. Donc, c'est plein de mots sympathiques, l'air vicié, le vent coulis, des gaz vénéneux. Je trouve que tout ce langage est tout à fait amusant parce qu'il est daté. Mais le propos, lui, de façon tout à fait spectaculaire, le propos, lui, n'est pas daté. En fait, tout ce qui est dit là, pratiquement, si on le redit aujourd'hui, on va le redire avec une forme différente, avec un langage différent, avec un ton peut-être un peu moins compassé, mais on va le redire de la même façon. Donc c'est vraiment très intéressant.
Moi, j'ai relevé les 10 800 litres. Il n'y a pas eu d'inflation ou de déflation?
Si, il y a un peu d'inflation. Alors, c'est très compliqué de faire ce calcul parce que la respiration, la ventilation, le nombre de litres par minute, il dépend de la morphologie de la personne. Donc une petite femme et un gros homme, c'est pas la même quantité de litres. Puis ça dépend aussi de l'activité. En gros, on est actuellement, on dit c'est plus parlant, on dit 15 000 litres. Parce que 10 800, c'est compliqué. On dit 15 000 litres, mais ces 15 000 litres vont passer, si vous faites une heure de course à pied le matin, ou si vous venez travailler en vélo, ces 15 000 litres vont passer à 25 000 facilement. Si vous voulez matérialiser ça, ça veut rien dire, 15 000 litres. Imaginez que dans votre cuisine, vous fassiez livrer tous les jours 15 000 bouteilles d'un litre d'une eau minérale, et qu'il faut les boire.
Pour continuer sur ces allégories, Sophie Lavaux, on entendait également dans cet archive tout le fort pouvoir métaphorique du terme respiration.
Oui, et moi j'ai focalisé mon attention sur les détails plutôt anxiogènes. L'asphyxie, la pollution, attention, prenez garde. Et en fait, c'est très étonnant, c'était empreint de beaucoup d'émotions négatives en fait. Et finalement, ça rappelle que la respiration, on s'en rend pas compte, mais c'est tellement vital à chaque instant.
Oui, puis on verra aussi comment dans les troubles respiratoires, ce sont des troubles qui sont souvent liés aussi avec l'anxiété, et on le verra au cours de cette émission. Pour reprendre aussi ces termes 15 000 litres d'air, peut-être on peut commencer aussi par une anatomie de la respiration. Comment fonctionne l'appareil respiratoire, Thomas Similowski ?
Alors, vous l'avez dit dans l'introduction, déjà la première chose que je veux souligner, c'est que l'appareil respiratoire n'est pas autonome. C'est une fonction automatique, bien sûr, on pense pas à respirer, mais si vous vous souvenez d'un film qui devait être de l'édition numéro 2 de Les Aventures d'Indiana Jones, on voit à un moment donné le prêtre indien arracher le cœur d'une victime et brandir le cœur dans sa main. Et qu'est-ce qu'il fait ? Le cœur, il continue de battre. Et ça, cette autonomie, elle est vraie pour l'ensemble des fonctions qu'on appelle vitales. D'ailleurs, on les appelle souvent fonctions autonomes, parce que elles n'ont besoin de rien pour fonctionner. La respiration fait exception. C'est-à-dire que si vous sortez les poumons de la poitrine du condamné, au lieu de sortir son cœur, vous allez les brandir et ça va être tout mou. D'ailleurs, ça s'appelle le mou pour le chat. Pour les plus anciens de nos auditeurs, je pense que les plus jeunes ne vont pas comprendre, mais le poumon n'est pas actif. Et donc, il doit être mu par des muscles qui vont se contracter. Le muscle le plus connu de ça, c'est le diaphragme. C'est un muscle qui fait une sorte de coupole qui sépare le ventre de l'abdomen. Et il faut que ces muscles se contractent pour que la cage thoracique gonfle, pour que le poumon gonfle, pour que l'air rentre. Et ça vient de cette particularité qui est une commande nerveuse qui est dans le cerveau. C'est pour ça, comme vous le disiez au début, que je peux contrôler ma respiration. Je peux faire tout ce que vous avez expliqué, faire des apnées, hyperventiler, mais je peux aussi parler. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que si la respiration, c'était comme les battements du cœur et que je n'avais aucune possibilité d'en moduler le rythme, eh bien, mes phrases auraient toutes la même longueur, la durée d'une demi-respiration, d'une expiration.
Ça, c'est passionnant aussi, Sophie Lavaux, parce que la respiration joue un rôle dans la parole humaine. Ça a à voir aussi avec cette anatomie de l'appareil respiratoire qui est divisé en deux parties. Sophie Lavaux ou Thomas Similowski.
Oui, dans la communication, en fait, par exemple, là, on pourrait fermer les yeux et puis entendre l'autre inspirer pour commencer une phrase. Et donc là, on sait que l'autre veut prendre la parole. Et donc il y a des petits signaux comme ça dans la respiration qui font que la communication se fait avec des signaux beaucoup plus larges.
C'est amusant de constater que le fait que la respiration soit le seul mouvement physiologique contrôlable, quand on vous entend le dire, ça paraît aller de soi, mais finalement ça fait toujours naître une forme de surprise de la part de son interlocuteur, qui se dit « mais tiens, c'est vrai, oui, je
oui,
peux pas... »
Oui, c'est tellement anormal. Je veux dire, c'est vital, on l'a bien entendu dans l'archive, ça ne doit pas s'arrêter, il a dit « si on respire pendant 5 minutes, on est mort », je suis même pas sûr que ce soit pas plus court que ça, et donc c'est aberrant quelque part. Pourquoi est-ce que quelque chose d'aussi important qui doit être automatique, on respire quand on dort? La première chose qu'on fait en venant au monde, c'est respirer. D'ailleurs, ça inquiète tout le monde. Vous avez vu que la respiration, c'est la première source d'inquiétude. Est-ce que le bébé va respirer ? Une fois qu'il a respiré, on oublie. Et on oublie et on retombe dans cette espèce de... On prend pour acquis ce phénomène, mais ce contrôle volontaire de la respiration, il est magique. Et comme le disait Sophie, il nous permet de communiquer. Alors, communication par la parole, communication par l'inspiration. Là, on est tous en train de parler. Si vous voulez me couper la parole, parce que je suis très bavard et je peux parler très longtemps, vous allez prendre une grande respiration pour dire c'est mon tour. Mais aussi une communication non verbale, non volontaire. Parce que, autre particularité de l'anatomie et de la physiologie de la respiration, dans ces fonctions vitales dont on a parlé, c'est la seule que je peux voir ou entendre de l'extérieur. Et donc, en tant qu'être humain, je suis exposé toute ma vie à la respiration de l'autre. Et je vais me constituer toute ma vie un catalogue qui va dire, tiens, quand on respire lentement, de façon monotone, profondément, ben on va bien. D'ailleurs, on est en train de s'endormir. Vous voyez ? Donc c'est aussi une particularité très importante.
Oui, de façon plus générale, la respiration permet en fait de se connecter au monde qui nous entoure, Thomas Similowski. D'ailleurs, à ce sujet, vous participez à une étude en cours qui teste l'effet de la respiration dans l'interaction entre des humains et des robots.
Alors, c'est pas tellement moi, c'est Sophie qui a mené cette étude dans le laboratoire initialement. En fait, l'idée est la suivante. Mais Sophie, je peux vous laisser raconter peut-être.
Alors Sophie Lavaux, allez-y, je vous en prie.
Oh, allez-y.
On parle de robots qui respirent.
C'est fascinant. Ouais.
Alors c'est un petit robot qui est assez célèbre, qui a été fabriqué par une société française qui à l'époque s'appelait Aldébaran, qui est devenue SoftBank Robotics. C'est un petit robot qui s'appelle Pepper. Il ressemble à un enfant de 10-11 ans. Il fait 1m20, il a des grands yeux ronds, il est tout sympathique. Il est multi-articulé, donc il est très fluide, et on peut le programmer pour discuter avec un humain, donc on fait des fausses conversations, parce qu'évidemment, le robot, il répond toujours la même chose. Et donc, on s'est posé la question, et donc, c'est un robot avec lequel l'interaction, elle est réputée comme étant très fluide. Les gens le trouvent aimable, ils ont envie d'interagir avec eux,
ils le trouvent
vivant, il est sympa. Bon. Et donc, on s'est dit, mais quand je parle avec quelqu'un, comme on vient de le dire à l'instant, quand je parle avec quelqu'un, j'entends sa respiration. La respiration, elle est modifiée. Je prends une grande inspiration pour faire une longue phrase, etc. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si on fait semblant de faire respirer Pepper? Donc, on ne peut pas lui faire gonfler le thorax, c'est pas possible. Mais on lui a fait donner des mouvements. Quand, à chaque fois qu'on respire, on s'ouvre. Donc, quand je prends une inspiration, ma taille se redresse et mes épaules vont en arrière. Et donc, on a fait faire ça au robot. Donc, il s'ouvre à l'inspiration, il se referme à l'expiration. On a instillé un petit bruit aussi. Et on n'a rien dit aux participants. Et les participants, le robot leur posait une question. L'idée, c'était de dire, tiens, j'ai observé les humains, c'est marrant, ils dorment la nuit, par exemple. Et moi, je n'ai pas besoin de dormir la nuit. On était en plein Covid, et donc on portait tous un masque. Donc le robot, il pouvait dire à son interlocuteur, mais pourquoi vous portez un masque? Donc la personne répondait. Et à la fin, le robot, allez-y Sophie,
disait, ah merci, je suis content d'avoir appris cela. Voilà. Et l'expérience était terminée.
Et donc, une fois qu'on n'a jamais dit, bien sûr, aux participants qu'il y avait deux robots, qui respiraient, l'autre qui ne respirait pas, on ne leur a pas dit. Et puis, on a regardé comment ça se passait, l'interaction. Et bien, quand le robot respire, d'abord, deux tiers des gens ne s'en apercevaient pas. À la fin, on les débriefait, et deux tiers des gens n'avaient pas compris ce qui se passait. Et bien, le robot qui respire, on le regarde plus longtemps. On a mesuré la durée de regard. La réponse qu'on lui fait pour expliquer le masque ou la nuit est plus longue et on le trouve plus vivant. Donc le simple fait... Donc ce qui est très intéressant, c'est que c'est un robot qui est déjà très humanisé. En plus, il est ce qu'on appelle néoténique, c'est-à-dire on dirait un enfant. Donc il appelle le soin, il appelle la protection. Et bien, malgré tous ses atouts, juste le fait de le faire respirer, ça augmente son, entre guillemets, humanité.
Donc ça montre qu'on ne perçoit pas que c'est un signal inconscient et qui, en fait, va complètement modifier l'interaction avec le robot.
Ouais. Ça permet de maintenir plus longtemps l'attention des humains. Pour revenir sur la mécanique humaine, justement, on évoquait à l'instant l'importance du cerveau dans cette mécanique-là. Thomas Similowski, plus précisément, comment le cerveau et la respiration interagissent-ils ensemble ?
Alors, dans les deux sens, de deux façons. Il y a un sens commande. Donc, nous avons dans le cerveau, dans une partie du cerveau qu'on appelle le tronc cérébral, donc qui est juste au-dessus de la moelle épinière, entre la moelle et le cerveau proprement dit, nous avons quelques centaines de neurones qui sont organisés en réseau et qui vont avoir une activité automatique, comme un battement, en quelque sorte. Et ça va envoyer des commandes pour respirer. Donc ça, c'est la première chose. Au-dessus de ça, on a notre cortex cérébral qui nous permet de faire des gestes respiratoires comme on fait des gestes avec les mains. Donc ça, c'est le contrôle automatique dont on a parlé tout à l'heure, et puis la capacité de prendre le dessus temporairement, comme on l'a déjà dit. Mais il y a aussi une autre chose qui est très importante, c'est que ça remonte toutes ces informations. Et donc le cerveau, va en permanence recevoir de l'appareil respiratoire des dizaines de signaux. Il y a un muscle qui s'est contracté, il y a une articulation qui a bougé, il y a un poumon qui a été détendu, il y a une bronche qui s'est ouverte, il y a de l'air qui est passé dans le nez. Et donc le cerveau va savoir en permanence qu'on respire, à quelle phase de la respiration on se trouve. Et donc, vraiment, c'est une espèce d'échange permanent, bidirectionnel.
Sophie Lavaux, c'est pour ça qu'on dit que la respiration est un chef d'orchestre de nombreuses fonctions cognitives?
Oui, la respiration, c'est le reflet de nos émotions et c'est le reflet aussi de notre activité, on va dire, cérébrale un peu, parce que quand on est stressé, on a beaucoup de pensées, on est très agité et on va respirer plus vite. Donc tout ça, c'est très lié.
Olivier Lascarre.
Le fait que le cerveau soit le super contrôleur de la respiration, ça pour le coup c'est un facteur qui est commun quoi à toutes nos fonctionnalités physiologiques.
Oui, avec une particularité, c'est l'important. Je parle dans le sens de la remontée de l'appareil respiratoire vers le cerveau. La particularité, c'est la variété et le nombre des sources d'informations. Quand le cœur bat, c'est une pompe qui bat, elle envoie un signal de pression et c'est tout. Tandis que pour la respiration, il y a toute cette richesse de tout ce qui remonte en fonction, comme je vous l'ai dit, les muscles, le poumon, le courant d'air qui passe dans le nez, etc. Donc c'est peut-être un peu plus subtil.
Alors quels sont les dysfonctionnements et les troubles de la respiration? Quelles en sont les causes? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture et en partenariat avec le magazine Science et Avenir, nous parlons de respiration et de cette mécanique de la respiration. Une émission co-animée avec Olivier Lascarre et avec nos deux invités du jour, Thomas Similowski, Sophie Laveau. On vient de revenir sur les mécanismes physiologiques, tout part du tronc cérébral, la région du cerveau qui contrôle la ventilation. Parlons à présent des troubles respiratoires. Les principales maladies respiratoires, ce sont la bronchopneumopathie chronique obstructive, aussi dit la PCO, l'asthme et le cancer du poumon. Ce sont quand même 10% des Français qui sont touchés par l'une de ces trois maladies. C'est un problème de santé publique, Thomas Similowski.
Oui, c'est un énorme problème. On a 5 millions d'asthmatiques, dont 3,5 millions d'enfants, d'adultes, donc 1,5 million d'enfants. On a 3,5 millions de personnes BPCO, dont 40% ne savent pas qu'elles sont atteintes de cette maladie. BPCO, ça veut dire bronchopneumopathie chronique obstructive. Incompréhensible, et d'ailleurs ça explique beaucoup de choses, le côté très obscurantiste de ce nom explique beaucoup l'invisibilité de la maladie, et c'est une maladie qui est directement liée à la consommation du tabac.
Et comment on peut en être victime sans le savoir? On prête les symptômes à une autre maladie?
C'est une excellente question, c'est aussi autre chose qui est ce qu'on appelle l'invisibilité de la dyspnée. Qu'est-ce que c'est que la dyspnée? Dys, ça veut dire de travers, et pnée, ça veut dire respirer. Donc respirer mal, c'est une souffrance physique, comme une douleur. C'est une souffrance psychologique, c'est très anxiogène. Mais c'est quelque chose dont on va peu parler spontanément. Puis surtout, il suffit de réduire un peu au début des maladies, il suffit de réduire un peu son activité. Et puis, je suis essoufflé pour deux étages, je ne veux remonter qu'un seul. Je vais prendre l'ascenseur plus souvent, etc. Et donc, il y a un phénomène, il y a aussi beaucoup d'auto-justification. Bon, j'ai du mal à respirer, mais vous comprenez, maintenant je suis vieux. J'ai du mal à respirer, mais je fais plus de sport, je suis un peu gros. La pire des justifications qu'on a, nous, les pneumologues, c'est vous savez, j'ai du mal à respirer, mais c'est normal, je fume. Donc, on est sur une espèce de déni qui est un déni à la fois individuel et collectif, qui fait qu'on va souvent diagnostiquer cette maladie à un stade très avancé où les patients sont devenus handicapés, où ils sont passés à l'hôpital, où ils sont en réadaptation après un séjour hospitalier. Et là, on va dire, mais dites monsieur, ça fait, ou madame, ça fait combien de temps que vous êtes comme ça? Et là, les gens vont dire, voilà.
Oui, Sophie Laveau, la BPCO, c'est une pathologie respiratoire qui ne peut être guérie.
Oui, voilà. Moi, je travaille dans le service de médecine de réadaptation respiratoire de la Pitié, et c'est vrai que les patients qu'on voit sont souvent en fait des patients qui sont un peu isolés, qui se sont déjà retirés d'une vie sociale, qui sont un peu dans la honte des appareillages qu'ils peuvent utiliser, l'oxygène, la dépendance à l'oxygène, et qui peuvent aussi parfois ne plus réussir à faire leurs lacets. Enfin, il y a des mouvements du quotidien, et donc ça pose la question du sens. Comment continuer à vivre quand on n'arrive plus à respirer, et quand on ne pense qu'au souffle prochain, est-ce que je vais pouvoir respirer la prochaine inspiration? Et donc, on ne peut pas guérir, mais on peut atténuer la souffrance. Et c'est vraiment à ça, c'est l'enjeu majeur.
Il y a un facteur âge dans cette maladie, dans la survenance de cette maladie ?
Oui, il y a un facteur âge parce que la toxicité du tabac sur ce type de destruction pulmonaire se fait sur des dizaines d'années. Donc il y a déjà un facteur temps d'exposition. Et puis le vieillissement normal, quand on vieillit, on a la peau qui se ride. Le poumon, c'est de la peau en fait, c'est plein d'élastique. Et donc l'élasticité de la peau, comme disait Alain Souchon, qui finit par disparaître, je crois que c'était à 30 ans dans sa chanson, si mes souvenirs sont bons, en même temps que l'élasticité du tissu, il disait pas l'élasticité de la peau, il disait l'élasticité du tissu. Eh bien, l'élasticité du tissu, elle concerne le tissu pulmonaire. Donc, le vieillissement affaiblit, fragilise par rapport au poumon.
En tout cas, c'est vraiment la maladie du fumeur, quoi.
C'est la maladie du fumeur. Alors, évidemment, il faut faire attention parce que dans certaines sociétés, par exemple en Afrique où les femmes cuisinent beaucoup avec de la combustion de la biomasse dans des locaux qui ne sont pas ventilés, c'est l'exposition à des gaz toxiques qui donne la BPCO. Donc ça n'est pas que le tabac. En France, dans les pays riches, il n'y a pas de tabac, il n'y a pas de BPCO, c'est aussi simple que ça. Alors oui, on va me dire, oui, mais il y a des agriculteurs qui sont exposés, etc. D'accord, c'est sûr, mais 3,5 millions de BPCO, je rappelle qu'en France, il y a 30% des adultes entre 25 et 75 ans qui sont fumeurs. Donc c'est vraiment la maladie du tabac.
Il y a aussi quelque chose d'important, c'est que, Bon, je sais même plus ce que je voulais dire. Allez-y, Natacha, j'ai oublié.
Oui, j'allais changer. N'hésitez pas.
Moi, je voulais juste rebondir sur ce que disait Olivier tout à l'heure, parce que la question, c'était la relation entre le cerveau, j'ai dit, elle va dans les deux sens, et on reçoit en permanence plein de messages qui nous donnent notre état à ce moment-là. Ces messages, on ne les, bien entendu, conscientise pas, on ne les perçoit pas. Heureusement, on serait tout le temps en train de dire, tiens, j'ai pris une inspiration. Ce qui se passe dans les maladies respiratoires, c'est que ces messages vont devenir toxiques. On va s'en rendre compte. Ils vont avoir une influence sur la vie. Et donc, ce pouvoir de la respiration qui est, mon cerveau, c'est en permanence où j'en suis. D'ailleurs, il va se servir de moi, respiration, pour mieux calculer, mieux mémoriser, etc. Ça va devenir le côté obscur.
En fait, j'ai retrouvé.
Ah,
c'est que. Mais oui, parce qu'en fait, quand on demande à un fumeur, mais tu risques pas d'avoir une maladie, en fait, il ne pense qu'au cancer. Et souvent, les fumeurs ne connaissent pas l'existence de la BPCO. Or, la BPCO, c'est un handicap respiratoire. Dans la tête d'un fumeur, le cancer, c'est un peu la roulette russe. Je vais la voir, je vais pas la voir. Ah bah tiens, tant que je l'ai pas, je peux continuer. Mais la BPCO, ça, c'est vraiment une autre histoire. Hein. Sur la longueur, la durée de vie avec la BPCO, c'est vraiment autre chose.
Sur les paquets de cigarettes, dans les avertissements de santé, aucun ne dit le tabac vous asphyxie.
Ouais.
C'est intéressant ce que vous dites sur le nom même de BPCO, qui est complètement abscon. Et qui nécessiterait une nouvelle appellation, quoi, pour clarifier la problématique.
Pour devenir visible.
Je ne sais pas s'il y a des réflexions à cet égard.
On a échoué, la pneumologie travaille sur le sujet depuis que je suis pneumologue, donc ça commence à faire un nombre de décennies respectables. Et on a échoué. Alors, au début, on disait les BPCO, alors on a voulu simplifier, on a dit la BPCO, mais en fait, ça ne va pas. Donc, soit vous dites emphysème, parce que ça, c'est un mot qui est connu du public, mais ça n'évoque pas grand-chose. Soit vous dites bronchite chronique, et là, c'est le piège. Une bronchite, c'est une bronchite. Donc on a vraiment un problème. Alors, problème qui n'est pas universel. Hein. En Angleterre, aux États-Unis, ça se dit COPD. Et clairement, l'association entre handicap respiratoire, tabac et une maladie qui s'appelle COPD, elle est parfaitement claire. Très très différent.
Autre souffrance respiratoire, il faut aussi qu'on évoque, on l'a à peine évoqué, l'asthme qui concerne, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, 4 millions de personnes en France. Ça aussi, l'asthme, ça ne peut pas être guéri, Sophie Lavaux. Alors, on a des traitements qui peuvent apaiser justement les détresses respiratoires ou la gêne respiratoire, mais ce n'est pas tout à fait idéal.
C'est vrai que bon, moi je réfléchis, je suis pas médecin, je suis psychologue et donc je réfléchis pas tellement en termes de guérison, mais plutôt d'accompagnement et de soulagement. Et là, pour l'asthme, comme pour les BPCO, comme pour toutes les maladies respiratoires, on peut travailler effectivement avec un peu la respiration, mais la respiration c'est le symptôme, donc c'est difficile. Mais on peut aussi travailler surtout sur les représentations. Comment je vis ce que je suis en train, mon essoufflement ou ma difficulté respiratoire. Qu'est-ce que j'ai dans la tête? Quelles sont mes pensées? Et on va travailler vraiment avec cette forme d'anxiété anticipatoire qui est associée au souffle et à la respiration, plus qu'avec la respiration elle-même.
On entend souvent cette idée qu'il est important de réguler son souffle. Alors pour quels troubles respiratoires est-il intéressant justement d'apprendre à bien réguler son souffle, Thomas Similowski ?
Alors, je vais faire un pas de côté avant de vous répondre. On a vu le lien entre le cerveau et la respiration. On a vu, on y reviendra tout à l'heure probablement, mais on peut anticiper sur le fait que apprendre certaines façons de respirer permet d'obtenir de l'apaisement. Et donc, avant de parler de maladies respiratoires, la première application, j'ai envie de dire thérapeutique, du contrôle de la respiration, elle est plus sur des choses davantage de nature psychologique, anxiété, stress, etc. Ça va être finalement l'application première de tout ce qu'on sait apprendre à faire avec la respiration. Maintenant, ces techniques, comme Sophie vient de le dire, elles ne sont pas fermées pour les malades qui ont des pathologies respiratoires. Donc ces malades, on va essayer de les soigner en corrigeant le déficit. On parlait d'asthme, 90% des asthmatiques ont une vie normale avec un traitement bien conduit. Vie normale, ça veut dire physique. Parce que tous les asthmatiques ont un flacon de Ventoline dans leur sac. Et quand ils ne l'ont pas, ils sont légèrement inquiets. J'en ai un dans mon sac, il est périmé depuis 2 ans, mais je sais qu'il est là. Et je sais que si je passe sous une pluie de pollen de marronnier à vélo en allant travailler et que je me mets à tousser, il y a ma Ventoline dans mon sac. Et donc vous voyez, c'est une vie normale, mais pas tout à fait quand même. Donc on essaye de corriger les anomalies. Et puis quand on ne peut plus corriger les anomalies du poumon, on va traiter le cerveau. C'est ce que disait Sophie, et on va travailler sur l'anxiété, la représentation, l'anticipation. Et là, toutes ces techniques respiratoires dont on va parler sont tout à fait applicables aux patients. Sauf qu'il faut les adapter. Si j'ai un malade insuffisant respiratoire qui a du mal à respirer quand il monte un demi-étage, je le mets dans le même cours de yoga que vous avez commencé cette année, Olivier, avec vous, et je lui dis de faire pareil qu'Olivier.
Ce n'est pas de la fake news.
Voilà. Non. Il faut tout exploiter dans une émission de radio, y compris ce qu'on s'est dit avant d'entrer. Et donc, si je mets ce patient avec vous et je lui dis de faire la même chose, je vais juste le mettre en difficulté, je ne lui apporterai aucun soulagement, il aura mal, il sera angoissé et il se sentira déprécié. Mais on peut adapter.
Mais avant de parler justement des adaptations cas par cas selon les patients et les pathologies, peut-être expliquer pourquoi la respiration lente par le nez, ça favorise ce sentiment de bien-être. Comment ça s'explique, ça? À qui le tour?
La respiration lente, alors déjà on peut revenir tout simplement au système nerveux autonome dont on parlait au début. On a en gros deux branches qui peuvent s'activer, une branche sympathique, système nerveux du stress, là on se prépare à l'action, et le système nerveux parasympathique, là on va plutôt être dans la récupération, le repos. Et en fait quand on respire lentement, plus lentement, on va favoriser l'activation du système parasympathique, donc la récupération. Et en plus, respirer par le nez va aussi permettre une synchronisation de certaines régions cérébrales qui sont impliquées dans la régulation des émotions. Donc respirer par le nez lentement, c'est vraiment le top pour redescendre un peu après un stress.
Olivier Lasker.
Comme Sophie parle de la respiration par le nez, dans le dossier de Science et Avenir, il est évoqué une pratique de relaxation qui peut paraître surprenante, c'est le fait de ne respirer que par une seule narine, alternativement. Et je voulais avoir un commentaire de votre part là-dessus, parce que...
Alors, c'est là où je dis pourquoi pas, mais il faut le prouver. Et donc, en fait, on a une infinité de techniques respiratoires qui sont décrites, et chacune est censée avoir son effet sur quelque chose. Loin de moi l'idée de dire que les notions empiriques qui viennent de très loin dans la culture comme ça n'ont pas quelque part un fondement. L'époque dans laquelle on vit nécessite d'en faire la démonstration. Donc je dis pas non. Ce qui est sûr, ce qui est intéressant avec ces techniques, c'est que c'est rare qu'elles puissent faire du mal. Donc on peut les utiliser sans trop d'arrière-pensée. Mais si on veut vraiment dire qu'il y a un bénéfice, à ce moment-là, il faut faire des recherches qui soient suffisamment méthodologiquement correctes pour le montrer.
Oui, c'est parce qu'on en a fait beaucoup lu aussi, un peu partout, la cohérence cardiaque, c'est la technique pour améliorer sa santé. C'est aussi, on peut remettre ça en question, Thomas Similowski.
Alors, sur la cohérence cardiaque, on est à un stade de la recherche qui est très intéressant, qui est ce qu'on appelle le stade de la preuve de concept. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a toute une série d'éléments correctement faits d'un point de vue scientifique qui disent que si on fait la cohérence cardiaque, c'est un très très mauvais nom, si vous voulez, on y reviendra, mais si on fait cette technique, on va effectivement diminuer son anxiété, diminuer son stress, faire baisser la pression artérielle. Il y a plein d'études qui sont tout à fait correctes, qui sont publiées dans des journaux tout à fait sérieux, qui disent il y a quelque chose. Mais on n'est pas au stade de ce qu'on appelle la preuve clinique. La preuve de concept, c'est j'ai des arguments pour faire maintenant une étude qui va démontrer qu'il y a un bénéfice sur la santé. Et donc, comme on fait des études pour mettre des médicaments sur le marché, on a d'abord une preuve de concept, cette molécule, elle fait tel phénomène, et puis ensuite une preuve clinique. Problème, c'est que pour faire des preuves de clinique, il faut beaucoup, beaucoup d'argent. Ça s'appelle un investissement, parce qu'après, on va vendre le médicament. Mais vous n'allez pas vendre la cohérence cardiaque. Et donc, je crains fort que, pour toutes ces techniques respiratoires, on reste beaucoup à la preuve de concept, et qu'on n'aille pas jusqu'à la preuve formelle clinique.
Sophie Lavaux.
Mais la cohérence cardiaque, quand même, on peut souligner sur le plan physiologique que ça va activer le nerf vague. Le nerf vague, qui est quand même la branche de ce système nerveux parasympathique, qui va vraiment innerver, c'est un nerf crânien qui va du cerveau jusqu'au système gastro-intestinal, hein, qui va vraiment passer par tous les organes vitaux, et qui va en fait réguler l'inflammation, activer le système parasympathique pour faire diminuer le stress. Et donc on peut imaginer quand même que ça peut avoir un impact sur beaucoup, beaucoup de pathologies.
Plus que l'imaginer, il y a de la documentation de ça. Donc les effets physiologiques, la preuve de concept, elle est absolument indéniable. Mmh. Et la cohérence cardiaque.
Alors qui consiste en quoi finalement ?
Alors, on ne devrait pas appeler ça cohérence cardiaque, c'est incompréhensible pour les non-initiés. Ça consiste à respirer lentement. Qui dit respirer lentement, dit respirer amplement. Parce qu'à chaque fois que je ralentis, j'amplifie, il y a un couplage mathématique entre les deux. Donc on va respirer lentement. 6 fois par minute, chaque cycle va durer 10 secondes, et on va faire 5 secondes pour gonfler les poumons, puis 5 secondes pour les dégonfler doucement.
Sans pause.
Et on repart. Et en faisant ça, on met en... C'est comme... Ah oui, les ponts. Vous avez une foule qui marche sur un pont de façon désordonnée. Il se passe rien. Et puis vous avez une brigade militaire qui marche sur le pont, et tout le monde marche au même pas. Et à ce moment-là, si on n'a pas de chance, on va faire rentrer le pont en résonance et il va s'écrouler. Bah, la cohérence cardiaque, c'est le même principe. Dans la vie de tous les jours, notre respiration et notre cœur traversent le pont sans du tout accorder leurs pas. Et donc, du coup, il n'y a pas de grande variation. Et quand je fais cette respiration lente qu'on a décrite, eh bien, je mets en résonance les deux. Et donc, du coup, je fais des grandes oscillations du système parasympathique.
Alors, comment les techniques respiratoires sont-elles déjà utilisées cliniquement pour soigner dans certains services ? Restez avec nous, on en parle après cette respiration musicale. Respire de user en direct sur France Culture, car nous parlons de respiration et de santé respiratoire. Une émission en partenariat avec le journal Science et Avenir, co-animé par Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle numérique. Et nos deux invités du jour, Thomas Similowski, professeur de pneumologie à Sorbonne Université, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et directeur de l'unité de recherche neurophysiologie respiratoire expérimentale et clinique. Et avec Sophie Lavaux, psychologue clinicienne dans le service de médecine de réadaptation respiratoire de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et docteur en neurosciences. Le manque d'oxygène lié à l'altitude est aussi un facteur qui peut entraîner des problèmes respiratoires. Pour le reportage du jour, on se rend sur les plus hauts sommets pour étudier la réponse du corps à ces conditions. Et c'est avec vous, Bruno Sansini, bonjour.
Bonjour Natacha.
Et vous êtes rendu au CHU de l'hôpital sud de Grenoble pour assister à une séance d'altitude simulée.
En effet, j'étais qu'à 200 mètres d'altitude au pied des Alpes, mais il est possible de simuler en laboratoire le manque d'oxygène lié à la haute altitude. Cette diminution de la disponibilité en oxygène, c'est ce que l'on appelle l'hypoxie. Elle peut être liée à des maladies cardiaques ou respiratoires, mais elle est aussi liée à l'altitude, quand la pression atmosphérique devient plus faible. Samuel Vergès est responsable de l'équipe exercice et hypoxie et a fait voyager Julien Brugnot, un de ses collègues, à plus de 5000 mètres d'altitude en seulement quelques minutes. Les deux scientifiques ont l'habitude de telles conditions, puisqu'ils se rendent régulièrement dans la plus haute ville du monde, au Pérou, dans le cadre de l'expédition 5300, où ils essaient de mieux comprendre les mécanismes de cette adaptation à un air deux fois moins riche en oxygène qu'au niveau de la mer.
La sensation tout de suite que l'on a lorsqu'on est en haute altitude, lorsque l'on monte quelques marches, lorsque l'on parcourt une rue, c'est cette sensation d'essoufflement. On sent que tout de suite on manque d'air, on ventile plus, et c'est une des réactions en fait normales, mais qui est peut-être un petit peu surprenante ou désagréable au début, une réaction importante de notre organisme à cette hypoxie. Au fur et à mesure qu'on s'élève à des altitudes de plus en plus élevées, cette pression inspirée en oxygène va diminuer elle aussi progressivement. À des altitudes très modestes, entre 1000 et 2000 mètres d'altitude par exemple, on sent à peine le manque d'oxygène, on va le sentir si on fait un effort intense. Donc là, il y a une légère augmentation de la ventilation, mais entre 1000 et 2000 mètres, c'est assez modeste. Et puis, plus on va monter haut, au-delà de 2500 mètres, au-delà de 4000 mètres d'altitude, là, dès le repos, on va sentir notre respiration s'accélérer, notre ventilation s'accélérer. Et dès que l'on va faire un effort, alors là, on va se sentir très, très essoufflé. Et encore une fois, c'est une réponse normale de notre organisme.
Alors là, on est à Grenoble, au CHU, donc on n'est pas à 5000 mètres d'altitude. Mais vous effectuez des tests ici de simulation d'altitude, c'est ça ?
On peut être amené à, on dit, exposer des sujets, des volontaires en hypoxie en laboratoire. Donc on peut simuler les conditions de cette hypoxie d'altitude en diminuant la fraction inspirée d'oxygène par des mélangeurs de gaz en laboratoire. Donc ici à Grenoble, on n'est qu'à 200 mètres d'altitude. Mais on peut quasi instantanément exposer un sujet volontaire, un patient ou une personne qui vient consulter dans un service de médecine de montagne. On peut l'exposer directement à une altitude de 3, 4, 5 000 mètres d'altitude et ainsi mesurer les réponses de son organisme pour mieux les comprendre et puis aussi pour essayer en partie de prédire si cette personne va plutôt bien tolérer son voyage en haute altitude ou si elle aura peut-être des précautions à prendre parce qu'elle semble ne pas être, on appelle ça, ne pas être très bon répondeur au manque d'oxygène. Dans un laboratoire comme le nôtre, on a des programmes, des protocoles de recherche où on étudie les réponses à l'hypoxie, au manque d'oxygène chez l'homme selon différents critères. On peut s'intéresser aux réponses des hommes, des femmes, des personnes plus ou moins âgées. On s'intéresse aussi aux réponses à l'hypoxie de certains malades, des personnes qui peuvent présenter une maladie chronique métabolique, un surpoids, une déficience cardiaque. Donc on s'intéresse aux réponses hypoxiques de différentes populations et donc on les expose, on leur fait respirer un mélange avec moins d'oxygène et on mesure différents paramètres de leur réponse physiologique au manque d'oxygène.
Je crois que vous avez une salle dans votre CHU pour justement étudier ça, je vous accompagne. Donc là, je vois la machine derrière. Vous pouvez m'expliquer un peu quel est son fonctionnement, qu'est-ce qui va être envoyé dans ce masque que je vois juste ici.
En deux mots, ce qui fait qu'en haute altitude, on est exposé à une pression moindre d'oxygène, c'est justement parce que la pression barométrique en altitude diminue. Mais on respire en altitude toujours 21% d'oxygène. Ici, en plaine, on a une façon de simuler cette altitude. C'est non pas de modifier la pression barométrique ici en plaine, mais de diminuer ces fameux 21% d'oxygène. Et donc là, Julien va respirer un air avec 15%, 11% d'oxygène, ce qui va être l'équivalent de 3000, 4500 mètres d'altitude, en modifiant en fait le mélange gazeux qu'il va inhaler.
Je vous laisse mettre ça en place alors.
On va commencer par une altitude un peu intermédiaire, typiquement une altitude qu'on peut trouver dans une station de ski dans les Alpes par exemple, donc 2500 mètres d'altitude.
Donc là la machine est en train de faire son mélange.
Voilà, donc là elle crée de fait ce mélange, on va être autour de 14% d'oxygène et puis du coup à travers ce masque, Julien va passer instantanément, comme s'il était à 2500 mètres d'altitude, il va respirer un air équivalent à 2500 mètres d'altitude.
Donc là, vous installez un capteur, c'est ça ?
Donc là, on installe ce qui s'appelle un oxymètre ou un saturomètre qui permet de mesurer la fraction de l'hémoglobine du sang de Julien qui est chargée en oxygène. En pleine, on a à peu près quasiment 100%, 98% de notre hémoglobine qui, au niveau respiratoire, au niveau pulmonaire, se charge en oxygène. Donc, on est quasiment oxygéné de façon maximale. Et puis, lorsque l'on va monter en altitude, parce que l'air est moins riche en oxygène et malgré la ventilation qui s'accélère, notre sang va circuler avec plus que 90%, 80% de l'hémoglobine chargée en oxygène. Donc, ça sera la preuve de l'hypoxie, de cette hypoxie sanguine qu'on appelle hypoxémie induite par l'altitude. On a vu qu'il commençait autour de 98-99% de son hémoglobine qui était chargée en oxygène, parce qu'il est ici à Grenoble à simplement 200 mètres d'altitude. Et puis on va voir que progressivement cette valeur va diminuer au fur et à mesure que ce mélange gazeux privé d'oxygène désoxygénise, on pourrait dire, son organisme.
Très bien, on va laisser Julien monter en altitude.
Là, le niveau d'oxygénation de Julien, à moins de entre 85 et 90% de saturation en oxygène de son hémoglobine, c'est typiquement des niveaux d'oxygénation qu'on va trouver chez un patient qui arrive aux urgences avec une maladie respiratoire. Donc, pour quelqu'un qui ne serait pas en altitude, avoir plus que 85% de son hémoglobine chargée en oxygène, ça serait un signe de problème en particulier respiratoire. Donc, l'hypoxie en pleine, c'est pas normal et c'est la signe d'une pathologie. Mais en altitude, c'est normal et l'organisme peut arriver à tolérer.
Julien, il faut vraiment le monter très haut pour que pour ça, il fasse quelque
chose. On est à quelle altitude ?
On est à 5000.
Ah, on est à 5000 altitude.
Oui, oui. Et ça lui fait rien.
Oui, d'accord. On va faire l'enquête, mais 5, ouais.
D'accord. Donc là, après un bon petit temps déjà d'exposition à haute altitude, hein, Julien, il aura passé plusieurs minutes à plus de 5000 mètres d'altitude, on va enlever le masque et le tuyau qui le raccorde au mélangeur de gaz et qui l'expose donc à cette altitude simulée. Et puis de 5000 mètres d'altitude, il va revenir d'un coup d'un seul à un air riche en oxygène comme au niveau de la mer ici à Grenoble.
Alors, quel effet ça fait d'avoir passé quelques minutes à 5000 mètres d'altitude ?
Comme le disait Samuel, je suis plutôt un bon répondeur. On le sent quand même. Hein. La sensation, c'est vraiment d'essoufflement. On sent un petit peu que le cœur tape plus fort dans la poitrine. Il y a aussi, avec cette montée rapide et assez extrême, une petite sensation d'étourdissement qui arrive régulièrement. Donc, ça peut être un petit peu déstabilisant, ces sensations, quand on n'a pas trop l'habitude. Qu'il faut un petit peu laisser faire les choses et puis laisser le temps au corps de s'acclimater. Mais je suis content d'être dans une chaise quand même.
Merci Bruno Sansini pour cette randonnée en haute altitude. Thomas Simovski, votre réaction à l'écoute de ce reportage ?
Bon, d'abord, j'admire beaucoup les travaux de Sam Vergès, que je connais bien, et ce qu'il fait, c'est vraiment très impressionnant. Le mot-clé, vous avez entendu, donc Julien, il est monté à 5000 mètres d'altitude, il est redescendu, puis nous a expliqué avec une voix parfaitement calme, normale, absolument pas altérée, qu'il avait été un peu essoufflé, que le cœur tapait dans la poitrine. Mais il donnait pas du tout ce sentiment d'avoir du mal à respirer. Et le mot-clé, c'est « je suis content d'être dans une chaise ». Et donc, le manque d'oxygène, en soi, quand on ne bouge pas, n'est pas la source d'énormément de détresse. D'ailleurs, le manque d'oxygène va entraîner très vite une perte de conscience, s'il est vraiment profond, et elle est dangereuse parce qu'elle a peu de signes avant-coureurs. C'est pour ça qu'en haute altitude, les pilotes de chasse portent leur masque à oxygène de façon préventive pour, en cas de dépressurisation, enfin, les aventuriers ne sont pas pressurisés, mais bref, l'hypoxie qui est décrite là, elle n'est pas extrêmement, on appelle ça aversive dans le langage courant. C'est très différent de ce qu'éprouvent nos patients, parce que nos patients, premièrement, ils ont cette hypoxie, deuxièmement, ils font des exercices, ils ne sont pas sur une chaise, c'est ça qui les handicape, troisièmement, ils ont du mal à éliminer le gaz carbonique. Alors là, le gaz carbonique, c'est une autre histoire, c'est un gaz qui est profondément, c'est ancré dans l'évolution, parce que s'il y a du gaz carbonique, il faut partir. On va étouffer, on va mourir. Et donc, dans l'évolution, les mouches sont extrêmement sensibles au gaz carbonique. Et si, dans une atmosphère nutritive, la mouche est venue se nourrir, mais s'est confinée, on revient à l'archive de 1948 du départ, hein, les locaux confinés, eh bien là, il faut partir, parce que le CO2, ça va nous tuer très vite. Et ça donne une terrible angoisse, terrible sensation d'avoir du mal à respirer. Et c'est extrêmement, c'est ce qu'éprouvent les plongeurs en apnée, c'est ce sur quoi ils travaillent, d'ailleurs, les plongeurs en apnée, c'est la dissociation, c'est un ami de Sophie qui raconte ça, c'est la dissociation entre le besoin de respirer et l'envie
de respirer. Et le CO2, c'est quelque chose qui donne envie de respirer. Il faut vraiment respirer, et c'est de ça que les malades souffrent davantage.
Par rapport justement aux patients, Sophie Lavaux, et aux outils thérapeutiques, avant de rentrer dans le détail, on peut dire quand même qu'il y a des techniques qui permettent de réguler la ventilation, on peut dire qu'il en existe de deux types différents, globalement.
Oui, alors ben, les deux types, on va dire qu'il y a des techniques directes qui sont d'agir avec la respiration pour calmer, pour apaiser. Et puis il y a les techniques, donc ce dont on a parlé, et puis il y a les techniques dites indirectes, par exemple quand on va plutôt travailler avec la méditation ou l'hypnose, où on va aussi agir sur la respiration, mais de manière indirecte. Et ça, c'est très utile, par exemple, pour les patients qui ont des pathologies respiratoires chroniques, chez qui on ne peut pas proposer des techniques directes, où on risquerait de les mettre en difficulté. Là, on va utiliser par exemple l'hypnose. Et en fait, il faut savoir que dans le cortex, on a énormément de régions associatives. Il y a trois quarts du cortex qui représentent des régions associatives. C'est-à-dire qu'on va associer des informations avec les autres. C'est la fameuse Madeleine de Proust. Je sens une odeur et j'associe un souvenir. Et en fait, par exemple, en hypnose, on va inviter des patients à aller marcher le long d'une falaise. Donc, sous-entendu, là où il y a beaucoup de vent, beaucoup d'air. Mais on ne va pas le prononcer comme ça, on va simplement dire, et vous marchez de manière agréable sur un sentier. Et on fait comme ça appel à l'automaticité du corps qui se met à marcher. Et si le corps se met à marcher librement, c'est qu'on respire. Et donc, on ne suggère pas que la personne respire en hypnose. Par contre, le fait de l'inviter à marcher fait qu'on induit une respiration plus fluide. Et là, on marche avec les associations.
Mais alors, vous développez en effet des pratiques complémentaires aux soins comme l'hypnose, mais le souci, l'arrêt de la transe hypnoptique est rapidement réaccompagné d'un retour du trouble ventilatoire.
Oui, c'est vrai. Et ça, on le voit. Donc, quand on fait des séances d'hypnose, les patients qui ont notamment une BPCO vont avoir une posture, ils vont s'appuyer, ils vont mobiliser beaucoup de muscles pour essayer de respirer. Et en fait, pendant la transe hypnotique, il y a un relâchement. Tout d'un coup, ils respirent sans vraiment s'en rendre compte parce qu'ils sont un petit peu ailleurs. Et puis, dès qu'ils reviennent, effectivement, ils peuvent reprendre cette posture. Mais l'idée, c'est qu'ils apprennent, c'est qu'ils se saisissent de cet outil pour, au moment où ils se trouvent en difficulté, pouvoir utiliser n'importe où, n'importe quand, cette capacité à fermer les yeux et à aller trouver cette ressource.
Vous aussi, Thomas Similowski, dans votre service, il y a le pneumologue hypnothérapeute qui utilise une méthode dite du passing.
Pacing. Oui, alors, l'hypnose, alors, on disait tout à l'heure prof de concept versus prof clinique, prof de concept en hypnose, dans beaucoup de domaines médicaux, la douleur étant le premier, il n'y a pas de discussion. Il y a même de l'imagerie cérébrale fonctionnelle qui montre les mécanismes. On sait que ça marche, on sait comment ça marche. Pour la respiration, c'est un petit peu moins clair, on y travaille beaucoup, mais il y a des techniques différentes. Il y a autant d'hypnothérapie que d'hypnothérapeute, j'ai l'impression. Moi, je ne le suis pas moi-même. Mais une des techniques qui est utilisée par un de nos collègues à la Pitié-Salpêtrière, qui est le professeur Christian Strauss, consiste à... Dans l'hypnose, il y a une notion d'alliance entre le patient et le thérapeute. Il faut arriver à établir cette alliance. Et pour établir cette alliance, une des techniques, c'est de caler la respiration du thérapeute sur celle du patient. Donc on va se mettre à respirer comme le patient, à la même vitesse, et puis quand l'alliance sera établie, peut-être qu'on va arriver à modifier les choses.
C'est encore une résonance,
c'est un phénomène de mimétisme respiratoire qui peut se faire de façon très volontaire, mais qui existe, on l'a vu avec les robots tout à l'heure, ça existe de façon involontaire. Et donc ce calage sur la respiration, en fait c'est l'expiration en fait, qui est utilisée, va servir à renforcer cette alliance.
Et l'une des hypothèses, c'est que justement on parle sur l'expiration, parce que là, quand on parle là, vous et moi, on parle toujours sur l'expiration, on ne parle jamais sur l'inspiration. Et donc la personne peut confondre sa propre voix intérieure avec la voix du thérapeute. Et c'est pour ça que c'est important de dire les suggestions sur l'expiration du patient, parce qu'il va peut-être mieux s'approprier cette voix, comme si c'était lui-même.
L'hypnose peut aussi...
Non, mais ce que dit Sophie, ça nous amène à un truc très important, c'est qu'en ce moment, il y a une foule de données qui sortent, qui montrent que les performances du cerveau, elles dépendent du cycle respiratoire. Mmh. Donc quand on dit, par exemple, si je vous donne un ordre, là sur le bureau, là sur la table, à la radio, sur le bureau, il y a une souris d'ordinateur. Donc si on me donne un ordre, prends la souris d'ordinateur, je vais la prendre, indépendamment de mon cycle respiratoire. Mais si on me donne une consigne, quand tu le souhaites, attrape la souris de l'ordinateur. Eh bien, je vais le faire en expiration, de façon préférentielle. Et il y a d'autres fonctions qui se font en inspiration. Donc du coup, ce que disait Sophie sur l'importance de, on va confondre la parole parce qu'on est sur l'expiration, on va confondre la parole du thérapeute avec la respiration du patient, ça fait écho à cette espèce d'orchestration de la cognition par la respiration.
Thomas Similowski, en parlant d'hypnose, c'est aussi une méthode qui peut avoir des effets sur le syndrome d'hyperventilation. Également.
Alors, on a dit tout à l'heure 10 millions de Français atteints de maladies respiratoires chroniques. On a cité l'asthme, c'était la BPCO. On aurait dû citer les apnées du sommeil. On en a cité le cancer du poumon. Et on a oublié, je dirais, 5% des adultes qui ont ce syndrome d'hyperventilation. De quoi ils souffrent, ces gens-là? Tout à l'heure, on a dit que toutes les informations respiratoires qui remontent au cerveau, on les oublie, on les conscientise pas. Mais les patients qui ont l'hyperventilation, ils s'aperçoivent de tout. Et donc, dès qu'il y a un changement, une émotion, un exercice, leur respiration augmente, et alors que vous et moi ne nous en apercevons pas, ces patients-là s'en aperçoivent. Ils s'en aperçoivent et ils en ont peur. Parce que c'est pas normal, il se passe quelque chose. C'est comme vous avez des extrasystoles, des battements cardiaques qui viennent de façon anormale. Généralement, même dans la plupart des cas, c'est pas grave. Mais quand vous les sentez, vous avez votre cœur qui a pas son rythme normal. Vous le sentiez pas du tout battre avant votre cœur. Puis là, pouf, pouf, pouf. Il y a 3 battements qui sont bizarres et ça inquiète. Ben, l'hyperventilation, c'est ça tout le temps. Et l'hypnose, dans l'hyperventilation...
Et l'enjeu, c'est de calmer l'anxiété. Et donc, l'hypnose va directement agir sur justement cette anxiété.
Ben, là, on parle de l'hypnose et des techniques indirectes, justement. Mais alors, il y a des techniques directes qui sont, en revanche, très efficaces. Par exemple, dans le cas des troubles anxieux, ça va en méthode thérapeutique.
Oui, on utilise, par exemple, dans les attaques de panique. C'est vraiment l'outil à dégainer, c'est la respiration. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Il y a, par exemple, la respiration au carré, où on va se mettre à compter... Ok, donc entre 2 et 4 secondes, par exemple, je vais inspirer sur 3 secondes, retenir ma respiration sur 3 secondes, expirer sur 3 secondes, rester 3 secondes sans respirer. Enfin, c'est vraiment un carré. Donc ça permet de mobiliser l'attention et puis ça calme en fait le rythme respiratoire. Là, il y a les deux effets. Parce que dans les attaques de panique, ce qui fait qu'on va avoir une anxiété qui va monter comme ça très vite, c'est surtout nos cognitions. C'est ce qu'on va se raconter. Je risque de m'évanouir, oh là là, je vais mourir. Et donc en fait, se concentrer comme ça permet de faire baisser la pression. Il y a aussi des techniques comme... inspirer et maintenir poumon plein 6 à 8 secondes. Il faut y arriver, mais... Et puis ensuite, respirer normalement. Et puis refaire cette manip. Et puis en fait, on se rend compte que progressivement, le corps arrive à réguler l'anxiété si on laisse le corps faire.
Là, on arrive... voilà, j'étais à bout de... je retenais mon souffle et vos mots qui me tenaient en haleine comme ça. Je regarde l'heure, je vois qu'on arrive vers la fin de cette discussion, qu'on s'approche de la chronique avec science. Mais avant d'arriver à cette chronique, quelles sont les perspectives de recherche dans ce domaine, Thomas Similowski?
On est au début, en fait. Il y a un gros mouvement qui s'est mis en place chez les neuroscientifiques depuis même pas 10 ans, qui ont enfin compris que la respiration était quelque chose d'important. Moi, j'ai passé toute ma carrière à dire aux pneumologues que le cerveau, c'était important. Bon, ça, c'est un échec. À dire aux neuroscientifiques que la respiration, c'était important. Ça a été aussi longtemps un échec. Mais maintenant, cette interaction constante entre les deux systèmes, ça y est, elle a une réalité.
Il y a eu un déficit d'intérêt pour les problèmes liés à la respiration aussi.
Il y a toujours. Si on parle de problèmes liés à la respiration, on est dans une espèce de... Il y a un rapport de la Cour des comptes qui le dit en 2024, je crois. Il y a une sous-estimation de l'importance des maladies respiratoires par les institutions, la sécurité sociale, le ministère de la Santé, la population elle-même. Il y a vraiment une méconnaissance et une sous-estimation.
Et donc, en effet, il y a des pistes de recherche, notamment autour de toutes ces interventions non médicamenteuses.
Absolument. Et la réalisation du fait que quand les gens ne sont plus accessibles à des traitements pour réparer leurs poumons, il faut leur donner l'accès à des traitements pour calmer leur cerveau, cette réalisation, elle est absolument fondamentale.
Et Sophie Lavaux, pour conclure, est-ce qu'il existe des risques de dérive autour de ces méthodes thérapiques alternatives, ou plus exactement ces pratiques non médicamenteuses?
Justement, vous parliez des interventions non médicamenteuses, et je pense que c'est vraiment ça maintenant qu'on essaye de développer, c'est avoir des protocoles validés dans une indication particulière pour des patients particuliers. Et donc là, il y a un référentiel d'interventions non médicamenteuses, par exemple, qui vient d'être mis en ligne cette année, et qui va être... l'idée, c'est pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas grand-chose sur la respiration, mais l'idée c'est que justement la recherche puisse commencer à faire gonfler un peu le nombre de ces interventions pour qu'on puisse avoir un gage de qualité.
Merci, merci à vous trois, merci d'avoir accompagné cette heure avec nous. Je renvoie nos auditrices et nos auditeurs vers votre livre, Thomas Similowski, Les super-pouvoirs de la respiration, paru l'année dernière chez Albin Michel. Et si vous êtes à Paris, rendez-vous le 13 février à la Sorbonne pour votre conférence Respirer, souffler. On vient de vous poster le lien de l'événement. Tout de suite, un tout autre sujet, avec une piste pour réduire l'utilisation des engrais chimiques, c'est la chronique avec science.
Peut-on se passer d'engrais chimiques ? On sait bien que les plantes se nourrissent de nutriments présents dans le sol grâce à leurs racines, c'est d'ailleurs pour ça qu'on leur donne de l'engrais. Mais ce qu'on ignore souvent, c'est que la vaste majorité des plantes est capable de s'associer à des micro-organismes qui vont l'aider dans cette tâche. On parle de relations endosymbiotiques. Elles établissent ces relations avec des champignons qu'on appelle mycorhiziens qui forment un grand réseau de filaments autour des racines et qui permettent d'explorer une plus grande surface du sol. Les champignons apportent à la plante de l'eau, du phosphore, de l'azote, des acides aminés et des vitamines du sol en échange de carbone. Pour effectuer ces échanges, les réseaux mycorhiziens pénètrent directement dans les cellules des racines des plantes, ce qui rend ces interactions extrêmement efficaces. Les champignons peuvent fournir à la plante 80% de ses besoins en phosphore, 25% de ses besoins en azote, et en échange, les plantes leur donnent environ 4 à 20% du carbone qu'elles fabriquent. C'est une relation donnant-donnant, un véritable engrais naturel pour les plantes. Par ailleurs, certaines catégories de plantes peuvent aussi établir des relations avec des bactéries et obtenir des bénéfices à peu près similaires. Myriam Charpentier est directrice de recherche au John Innes Center à Norwich en Angleterre et elle est spécialiste de ces relations plantes-micro-organismes.
Ces associations, évidemment, sont bénéfiques, mais comme les deux micro-organismes doivent pénétrer à l'intérieur de la plante et établir des structures qui sont intracellulaires, la plante a un contrôle énorme sur ses symbioses, sur ses endosymbioses. Et quand je dis qu'elle a un contrôle énorme, c'est que la plante peut décider de les faire ou pas. Moi, je suis passionnée de signalisation calcique chez les plantes, qui sont essentielles à former ces associations symbiotiques. Le signal calcique, ça peut être visualisé comme un message que la plante écrit en réponse à des facteurs extérieurs, mais qu'elle lit aussi pour réagir à ces facteurs extérieurs, pour se dire « maintenant je fais ça, je dois agir dans cette direction ». Et ce message est écrit avec seulement un mot, le calcium.
Et pour comprendre ce type de signalisation, le plus simple est de penser au code Morse avec ses longues, ses brèves et ses blancs. En fait, les cellules de la plante envoient et décodent des signaux complexes de calcium pour un tas de raisons et notamment réguler les interactions avec les micro-organismes du sol. Dans leur étude publiée dans Nature, Myriam Charpentier et son équipe se sont demandé s'il serait possible de contrôler ces messages de calcium. Ils ont recherché chez les plantes celles qui avaient des mutations sur le gène qui code pour les canaux calciques. Ce sont les portes de la cellule qui permettent de libérer le calcium en quantité contrôlée. Ils ont ainsi découvert une mutation génétique particulière qui permet d'activer les canaux calciques même lorsque les micro-organismes symbiotiques ne sont pas présents. Et là, ça devient intéressant parce que le signal calcique produit a une fréquence deux fois plus basse que la normale. Il constitue donc un nouveau message de calcium qui a poussé les plantes à produire en grande quantité des molécules qui encouragent des associations symbiotiques. Et le test en terre a montré que les plantes ont en conséquence considérablement renforcé leurs interactions avec les micro-organismes du sol.
Ça aurait pu s'arrêter là, mais il y a aussi un autre, on va dire le caviar sur ou la cerise sur le gâteau, comme on dit en français, c'est que tout l'intérêt de la recherche en symbiose, c'est d'essayer de trouver des solutions pour l'agriculture. On savait que dans les champs cultivés, il y a énormément de résidus de nitrates et de phosphates. Et donc, en fait, on sait très bien que la symbiose mycorhizienne avec le blé, le maïs ou n'importe quelle culture ne se fait pas, puisqu'il y a inhibition de cette symbiose. Donc, en fait, on a testé si augmenter avec notre mutation, si on augmente, est-ce que ça, c'est résistant aux engrais chimiques? Et ce qu'on a trouvé, c'est que c'était en effet beaucoup plus résistant qu'une plante sans cette mutation aux engrais chimiques. Ça veut dire que les blés dans le champ, et donc nous l'avons testé, même en présence de nitrate, même en présence de phosphate, pouvaient avoir 20% de plus de mycorhizes formés au niveau de leurs racines, et ça a engendré une augmentation de leur acquisition d'azote, pour ce que l'on a mesuré pour l'instant.
Il s'agit donc d'une découverte de recherche fondamentale, mais à laquelle les scientifiques ont voulu trouver une application très concrète. D'autres tests sont évidemment nécessaires, mais on peut imaginer que si les agriculteurs utilisent des blés qui possèdent ces mutations, ils auront alors moins besoin d'engrais chimiques pour maintenir leur rendement, et ça leur permet de faire des économies. En polluant moins, tout le monde y gagne.
Tout le monde y gagne à vous écouter, Alexandre. Merci pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Noémie Eliazor, Bruno Sansini, Loïc Dutoit, Ali Ruyère-Thompson. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Ludovic Auger. Et un remerciement tout spécial à Lou F. Voisin. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.